One, two, three, four!
I love the colorful clothes you wear.
Rock in place.
Amis du blues, du rock and roll, du twist, du Madison, du rhythm and blues, de la soul music, de la pop music, du rock, du surf, du psychédélique, du planant, du punk, et que sais-je encore dans les garages ou les caves, voici la fabuleuse histoire rock'n'rollesque de la presse musicale en France. Disco Revue, France Disque, Salut les copains, rock'n folk, les rockers, musique actualité, best, pop music, extra, music maker, pop 2000, maxi pop, atem, pop hebdo, rock news, encyclo rock, rock'n'roll music, rock en stock, numéro 1, feeling, rock hebdo, gig, new wave, 19... Jukebox Magazine, ah là 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 là, et encore plein d'autres, je ne peux les citer tous. Et pour cette première émission, j'ai invité deux passionnés du rock et de la presse, Jean-Louis Lamaison et Jean-William Toury. Bonjour messieurs.
Bonsoir.
Bonjour.
Je salue également Paul Semama qui nous a aimablement prêté son studio pour l'enregistrement de cette émission. Les amateurs de pop française se souviennent certainement de ces groupes tels que Dévotion ou Alice. On reparlera de cette période dans une prochaine émission.
Well, my mother told my father just before I was born, I got a boy child coming, gonna be a rolling stone. Sure enough, he's a rolling stone. Sure enough, he's a rolling stone. Oh, well, he's a.
C'était Muddy Waters dans Rolling Stone en 1948, classé 459e, c'est donc l'une des 500 meilleures chansons de tous les temps d'après le magazine américain Rolling Stone. Et c'est la plus ancienne de leur sélection. C'est toute la musique que l'on aime, elle vient de là bien sûr. Est-ce que vous avez un petit commentaire sur Muddy Waters, sur le blues ?
Moi, je pense que ça c'est juste une variation sur Catfish Blues,
ouais.
Qui est un thème qui revient chez tous les bluesmen pratiquement. Moi aussi j'aurais bien aimé être un poisson-chat.
Enfin, je veux quand même surtout dire que c'est là apparemment que les Rolling Stones auraient pris leur nom, c'est d'après cette chanson.
Exact. Et avant de feuilleter ensemble ces magnifiques revues qui s'étalent sur la table devant nous, faisons plus ample connaissance avec nos invités. Jean-William Toury, tu es né pendant que Muddy Waters chantait Rolling Stone, c'est-à-dire en 1948. Pas dans le sud des États-Unis, mais dans la banlieue sud de Paris. Et tu te passionnes très tôt pour le rock'n'roll. En 1972, tu gagnes le concours radiophonique Monsieur Pop sur RTL. Monsieur Pop 72.
Cool.
Ce qui t'amène à écrire pour l'hebdomadaire Pop Music. Tu y rédiges des papiers sur les pionniers du rock et sur les groupes français ou britanniques. Tu poursuis ta mission à Extra, Best, Feeling, Rock'n'Roll Music, Rock en Stock et occasionnellement à Rock'n'Folk. En 1976, Jean-William Toury crée le groupe Bijoux en tant que parolier, manager et producteur. Tu es également réalisateur de nombreux enregistrements d'artistes dans les années 90 et 2000. Tu as écrit la biographie d'Erita Mitsuko et un dictionnaire Johnny en chanson, dédié aux enregistrements officiels de Johnny Hallyday. Tu collabores également au Dictionnaire du Rock, à l'Encyclopédie du Rock français, et enfin tu es actuellement chroniqueur à Jukebox Magazine, et ce depuis 1985. Ai-je oublié quelque chose ?
Non, la nécro est exacte.
Alors nous allons écouter un titre que tu as choisi, Johnny Hallyday, une boom chez John, 1960.
Ce soir je paye chez John, j'aurais pas donné 23 coups de téléphone. Si tu m'avais dit que t'allais danser chez lui, je ne serais pas devenu cinglé. J'aurais pas crevé avec tes amis, et j'aurais pas sorti tous les croulants de leur lit. Si tu m'avais dit je vais chez John, si tu ne voulais pas, oui que je te soupçonne, va aller me dire voilà je paye chez John. En allant chez Johnny tu faisais de mal à personne, mais moi bon sang je ne voulais même pas. J'ai fait des dégâts, un drôle de fracas.
Maintenant, nous passons à la présentation de Jean-Louis Lamaison. Né en 1949, comme moi, et donc un an après Jean-William Toury, tu collabores successivement à Super Hebdo Pop Music, Extra et enfin à Rock'n'Folk à partir de 1974 pour remplacer Philippe Garnier, parti s'installer aux USA. Pendant presque 10 ans, tu te spécialises dans la soul music et plus généralement dans toutes les musiques du sud des États-Unis. Tu publies une galerie de portraits des stars de la soul sous le titre « Soul Music » dans la collection Rock'n'Folk à Bain-Michel. En 1994, tu réalises un documentaire consacré à Tony Joe White, intitulé « L'homme du sud ». Je ne l'ai pas vu, j'espère pouvoir réparer cet oubli.
Comment est-ce possible ?
Tu participes, entre autres avec Jean-William Toury, ici présent, au Dictionnaire du Rock, édité chez Robert Laffont, dans la prestigieuse collection « Bouquins ». En fait, vous vous connaissez depuis la nuit des temps, alors, tous les deux.
Quasiment. Quasiment.
Depuis les années 60.
Ah ouais, vous alliez au lycée ensemble.
Non. Non, on s'est connus après le lycée, mais enfin, ça remonte effectivement à la fin des années 60.
Ok. Et donc, Jean-Louis Lamaison nous a choisi les missiles sacrés dollars en 1963.
Papier qui peut tout acheter, je vois faire autour de moi n'importe quoi pour toucher quelques billets serrés. Tout le monde se battrait. Oui, c'est fou ce qu'on fait pour ta voix. Sacré dollar, ça me fait rigoler. J'aime mieux chanter avec ma guitare. Tant pis pour ce sacré dollar. Eh oui, tant pis pour ce sacré dollar. Elle m'avait promis de m'aimer, même à moitié fauchée. Mais d'autres avaient ce que moi, moi je n'ai pas. Et cambriole la monnaie, c'est vrai, l'amour doit faire ses paquets. Oui, c'est fou ce qu'on fait pour ta voix. Sacré dollar, ça me fait rigoler. J'aime mieux chanter avec ma guitare. Tant pis pour ce sacré dollar.
Et quant à moi, je suis né comme Jean-Louis en 1949, j'ai créé quelques revues pop au début des années 70 et fait le chanteur sur 3 disques à la fin de cette même décennie. J'ai travaillé ensuite dans le groupe Hachette, livre puis multimédia. J'ai créé la chaîne du blues sur internet en 1999, je reviens maintenant à mes premières amours, la musique et la radio. Chaussettes noires, Dactylo Rock, 1961. Toute notre jeunesse.
On y va pour Dactylo Rock ?
Oui ! Ouais !
Alors attention les gars, 1, 2, 3, 4. Monsieur le directeur, sans même le savoir, de tous les hommes, vous êtes le plus vénard. Vous avez des Dactylo Rock. Elles sont les plus parfaites, elles chantent en tapant ta tête. Viva Benoula,
viva Benoula.
Elles travaillent le jour et la nuit, et même parfois tous les samedis. Les Dactylo Rock. Elles sont les plus parfaites, elles chantent en tapant ta tête. Viva Benoula,
viva Benoula.
Dans tous les bureaux de bas en haut, les Dactylo tapent go go, et leur patron leur dit go go. très jolie. Ce sont les plus belles filles de Paris. Les dactylorap, digi-digi-digi, dactylorap, digi-digi-digi. Pour faire leur bouquet, les directeurs passent la tête. Elle va le bien ça,
elle va le bien ça.
Dans tous les bureaux de Brazza, on chantera très bientôt le rock des dactylos. Sans même le savoir, de tous les hommes, vous êtes la plus belle à vous. Vous avez des digri-digri-digri-dactylo-rap, digri-digri-digri-digri. Elles sont les plus parfaites, elles chantent davantage du tête. Bipa-boloula, bipa-boloula.
Ah, les dactylos qui venaient papoter avec ma mère dans sa teinturerie place d'Enfer Rochereau. Ou bien qui venaient écouter le midi Zappy Max dans sa vabouillir.
C'était les premiers émois érotiques.
Oui. Bon. Mais le temps est lent. The times are changing. Times waits for no one. Le temps presse. Voici Rock'n'Press. Alors Jean-Louis et Jean-William, on va tout d'abord parler de la préhistoire, des ancêtres de la presse musicale. Grâce à Internet, j'ai trouvé quelques infos étonnantes, comme Métronome aux USA, Jazz Hot, Sonorama. Est-ce que vous connaissiez ces magazines? Music Hall?
Oui, bien sûr.
Vous les achetiez à l'époque?
Oui, Music Hall, oui. Music Hall, c'était le plus populaire, le plus facile à trouver, et le seul qui parlait vraiment de variété, donc des premiers chanteurs de rock'n'roll aussi, en France. Les grosses vedettes, c'était quand même Sacha Distel, Edith Piaf, Charles Aznavour. Charles Aznavour qui a été à un moment copropriétaire.
Ah bon?
De Music Hall, oui.
Gilbert Bécaud, Monsieur Sommervolt,
oui,
voilà.
Oui, toutes les vedettes de l'époque, oui.
Sonorama, Jean-William nous a apporté un exemplaire. Explique-nous un peu comment ça fonctionnait. Il y a des je vois qu'il y a des disques souples.
C'était vendu donc chez les marchands de journaux. C'était au format carré comme les disques.
Et, 45
entre,
tours.
Comme un 45 tours. Entre chaque page, il y a un disque souple. Il fallait donc replier le journal et le poser sur son électrophone en espérant que le bras n'accroche pas les pages. Et on pouvait écouter l'actualité sur les disques. Et, il y avait toujours un secteur musical où on présentait les nouveautés. En général, c'est plutôt lié à Barclay, je veux dire. Donc on pouvait trouver là les Chaussettes Noires, les Pirates, Gillian Hills, ou alors Paul Anka.
C'était entre 1958 et 1962 à peu près.
Oui, c'est ça, c'est la période. Il y a toute une collection.
Donc de la variété et puis du rock et du twist.
Oui, et aussi évidemment de la politique.
Et de la politique et de l'actualité mode. Générale ah bon, de l'époque.
Ah oui, on pouvait écouter Général de Gaulle ou Pinet qui parle du Nouveau Franc. Ou...
Super. Bon, on n'en écoutera pas un extrait là parce que... On n'a pas d'électrophone sous la main.
Voilà.
Tu en as beaucoup dans ta collection, des sonorama?
Quelques-uns, c'est pas trop rare, c'est pas trop dur à trouver, parce que je pense que c'est tiré à pas mal d'exemplaires.
Ah ouais. Et toi, Jean-Louis?
Non, moi j'ai souvenir d'en avoir eu un. Enfin, j'ai qu'un seul souvenir. Ouais. C'était à l'époque de la guerre d'Algérie, où il y avait d'ailleurs le général de Gaulle, et c'était au moment du référendum sur l'autodétermination. Et en partie, et dans la partie variété, il y avait Henri Tizot, dont peut-être se rappelleront qu'il imitait le général de Gaulle, et voilà.
Little Richard, Long Tall Sally. À la fin des années 50, pour moi, il y a trois inventions, entre guillemets, qui vont bouleverser nos petites vies bien tranquilles. C'est le transistor, petit poste de radio qu'on emmenait partout, petit peu l'ancêtre de l'iPod, si on veut. La télévision, même s'il n'y a qu'une seule chaîne en noir et blanc, on a découvert nos vedettes du music hall par ce biais-là. Et enfin, pour nous, Français, le golf draw. Le temple du rock, un ancien golf miniature que le barman Henri Leproux a l'idée de génie de transformer en club pour jeunes, avec un jukebox et une scène qui va accueillir tous les adolescents apprentis rockers.
On peut ajouter comme invention peut-être la presse rock aussi.
Oui, 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 oui.
Qui crée un lien. Oui, mais c'est assez concomitant. Le premier disque revu arrive en 1961.
61.
Ouais, 61, voilà. Chez les marchands de journaux, je pense que ça correspond.
Avant
on
de
peut peut-être dire, oui. Dire deux mots d'une petite chose. Là, tu viens de parler du Golfe de Rouault. Moi, j'ai le souvenir d'un magazine de cinéma auquel mes parents étaient abonnés, qui s'appelait Cinémonde, et qui chaque semaine présente, qui était un hebdomadaire, si ma mémoire est bonne, et qui chaque semaine présentait une page consacrée au Golfe de Rouault, au tremplin du Golfe de Rouault, et surtout au groupe qui, groupe de twist et de rock de l'époque qui se produisait là-bas. Et chaque semaine, j'avais pas le droit de regarder les starlettes
dévêtues en bikini
des autres pages, mais j'avais ma page sur le
et ça, c'était avant Disco Revue.
À mon avis, c'était avant Disco Revue, c'était vraiment fin des années 50.
Ça. Avant et en même temps. Voilà.
Et est-ce que Ciné Musique Magazine, c'était avec Cinémonde ou c'était un...
C'est Ciné Magazine au départ, mais la musique était tellement vendeuse et apportait tellement de lecteurs et d'acheteurs que c'est devenu Ciné Musique Magazine. Ils n'hésitaient pas à mettre les groupes de rock en une pour faire vendre le journal. C'était la même chose pour les magazines de télé. Par exemple, Télé Magazine a mis Les Chaussettes Noires en couverture. Non pas qu'ils étaient fans des chaussettes, je suppose, mais simplement, rien que de les mettre en photo, ça faisait vendre le magazine.
C'est un peu maintenant, tes 7 jours ou d'autres vont
sauf
mettre...
Sauf que maintenant, ce qui se passe, il n'y a pas de gros français qu'on met en couverture pour faire vendre les magazines.
Non, mais j'allais dire
c'est
les artistes.
C'est les magazines, les artistes espèrent être en une pour faire vendre leur disque ou faire venir les spectateurs. C'est le magazine qui fait vendre l'artiste, c'est pas l'artiste qui vend le magazine. À l'époque, le phénomène est tel que c'est l'artiste qui fait vendre le magazine.
J'ai eu un choc à la télé, c'est le 18 avril 60. Lorsque Johnny Hallyday interprète Leslie Fille à la télévision dans l'émission L'École des vedettes.
C'est une date que tu as retrouvée
après coup. Oui, je m'en rappelais plus bien.
Ça n'a pas
marqué
même. À ce point-là. Quand même.
Et puis, ça a été vraiment. Ça, pour moi, il y a eu avant et après.
Le 18 avril.
J'ai recherché la date sur Internet, mais vraiment, je sais que le lendemain, j'ai demandé un Tepaz à mes parents, et mon premier disque, ça a été le 45 tours de Johnny Hallyday. Mais après, je suis passé très vite au groupe Chaussettes Noires, Chat Sauvage, Vautour.
C'est quand même ton chemin de Damas.
Est-ce que vous avez vu cette émission ou d'autres à l'époque?
Ouais,
parce que l'émission, bien sûr.
La télé, l'après-midi, il n'y avait pas de
découvrir
télé.
Découvrir Johnny à la télé, c'était un baptême incroyable.
Ah ben oui, ça a été un choc. On ne s'en est pas remis.
Quand même, il avait 17 ans, il se roulait par terre, avec la guitare extra plate, le pantalon noir moulant, etc. Ouais. C'est formidable.
Ce qui est drôle, c'est que sa marraine
était Lynn Renault.
Lynn Renault de l'émission le fait passer pour un Américain et dit qu'il ne parle pas vraiment le français. Et hop, il chante en français et ça ne nous choque pas du tout.
Non, rien ne nous choque.
Alors nous arrivons en 1961 et c'est ce qui nous intéresse au premier plan, c'est-à-dire ce fameux discours revue, première formule. C'est à Nancy, probablement dans sa chambre, je pense que Jean-Claude Berton, âgé seulement de 18 ans, publie avec l'aide de sa sœur et de son beau-frère Bob Lampard, photographe, le fanzine Disco Variété, qui devient très rapidement le fameux Disco Revue, très recherché par les collectionneurs. J'avoue que je n'ai pas ce premier numéro, j'en ai quelques autres, mais pas le premier, qui paraît le 28 septembre 1961, avec Johnny Hallyday en couverture, toujours lui. Pour moi, c'est un second choc. Lorsqu'en allant acheter Spirou un jeudi matin chez le libraire en bas de chez moi à Montparnasse, je découvre ces photos incroyables en noir et blanc pour la plupart. Et vous?
Ah bah pour la plupart, c'est complètement noir et blanc.
Oui, mais après, il y a quelques couvertures en couleur. Ouais, bon, c'est sûr. Les autres formules. Mais la première, tout est en noir et blanc. Est-ce que vous les avez découverts, Disco Revue, dès le premier numéro?
Oui, chez le marchand de journaux, pareil. Moi, c'était peut-être plutôt Tintin et Milou, mais... Non, mais c'est formidable de voir ça. Un magazine qui s'adresse à nous, les gens de notre âge, quoi, nos goûts, etc., qui nous parlent. Ouais. Il y a un tutoiement, enfin, il y a une concordance d'esprit qui est formidable.
Dans les premiers numéros...
Qu'il n'y avait pas avec Music Hall ou Ciné Music Magazine.
Quand on les regarde, le texte... Enfin, il n'y a pas beaucoup de texte, finalement.
Non, mais il est très militant, en plus. Quoi.
C'est le premier rock critique. Il apprend... C'est le père fondateur des rock and folk et autres.
Formidable.
Moi, j'habitais à Lyon. Ouais. J'habitais dans la banlieue lyonnaise. Et c'est un ami d'enfance qui s'appelle Serge Dumonteil.
Stevie Dixon.
Que vous connaissez, alias Stevie Dixon, qui m'a fait découvrir ça. Et je me souviens, c'était un vrai parcours de combattant pour arriver à trouver quelques exemplaires de ce magazine. Alors, on allait à Lyon, on prenait le car, on allait à Lyon et on allait dans un magasin qui vendait essentiellement du matériel d'électroménager et qui avait un petit coin avec des disques.
Des disques
et bizarrement quelques disques importés. C'est comme ça que j'ai découvert et Disco Revue et les disques importés. Et le souvenir que j'ai de Disco Revue, c'est que Jean-Claude Berton aimait beaucoup se mettre, se mettait en scène. Il était toujours pris en photo avec toutes les vedettes de l'époque. Toujours bien habillé, une petite cravate étroite.
Bien coiffé.
Bien coiffé, toujours.
Je l'ai vu torse nu dans une de ses...
Là, il était au bord d'une piscine, sans doute, non ? Avec Sylvie Vartan. D'ailleurs, on lui a prêté...
Il était
fou amoureux de Sylvie Vartan, c'est ce qu'il se disait à l'époque.
Tout en étant gay, quoi. Mais c'était un concurrent de Philippe Aki, aussi bien pour la presse que pour Sylvie.
Ah. Nous redécouvrons avec... émotion, on peut le dire quand même. Tiens, Jean-Claude en militaire, tu disais qu'il s'était en scène, voilà, pendant l'armée. Il a enregistré 2 45 tours, je crois, pendant son service militaire.
Ça, il se produisait au golf.
Disco Revue 63 avec Vince Taylor en couverture.
Là, j'ai entre les mains le numéro 14, donc d'octobre 62, qui accueille, parmi les nouveaux membres de l'équipe de Disco Revue, Jacques Barsamian.
Notre maître à tous, si on veut, enfin... qui on peut autoproclamer le plus ancien rock critique en activité.
Alors, il faut quand même savoir qu'à l'époque, donc au cours de cette semaine du mois d'octobre, le Hit Parade, Charles Aznavour était en tête avec « Il faut savoir devant les chaussettes noires, Daniela. Suivi par Marcel Amont, dans le cœur de ma blonde, et les Machu Cambos.
Est-ce qu'il y a un magazine, un numéro avec Chuck Berry ? Là, j'en vois pas, parce que je pense que... C'est toi, Jean-Louis, qui a choisi Nadine, Chuck
Berry.
Oui,
j'avais choisi Nadine.
Chuck Berry, j'ai été en couverture de Disco Revue, je pense pas.
Non,
pas de
cette série-là.
As I got on a city bus and found a vacant seat, I thought I saw my future bride walking up the street. I shouted to the driver, hey conductor, you must slow down. I think I see her, please let me off the bus. Nadine, honey, is that you? Oh, Nadine, honey, is that you? Seem like every time I see you, darling, you got something else to do. I saw her from the corner when she turned and doubled back. Pushing through the crowd, trying to get to where she's at, and I was campaign shouting like a southern diplomat. Nadine, honey, is that you? Oh, Nadine, honey, where are you? Seem like every time I catch up with you, you up to something new.
Par contre, Buddy Holly, ouais, il y en a eu pas mal. Hein.
Oui, c'est lui qui a fait sortir les disques.
Oui, c'est vrai.
Mais c'est déjà un petit peu plus tard, non ? C'est quelle année ?
Celui-là, c'est 64. Ouais. Ben là, moi, la première série... Ouais, j'avais mis 61-64. Tu vois ?
Poster.
Est-ce qu'il y a d'autres journalistes de cette époque que vous avez rencontrés ?
Il y a Jean-Noël Coge qui était là aussi.
Oui. Jean-Louis Rancurel.
Il était belge, si ma mémoire.
Il était dans le Nord,
surtout. Ouais. Jean-Louis Rancurel, photographe, qu'on voit souvent aux conventions de disques de Jukebox Magazine.
Mmh. Si on parle de Jukebox Magazine, on peut quand même dire que Jukebox Magazine régulièrement reprend des pages de Disco Revue.
Publie des facsimilés des premiers numéros de Disco Revue, effectivement.
Bon, Jean-Claude Berton, il était motivé surtout par New Musical Express, Melody Maker, la presse anglaise. Il voulait créer un équivalent. Il a d'abord créé un tout petit fanzine à Nancy qui n'était pas du tout distribué sur le pays et qu'il allait mettre
Disco
dans les boîtes aux lettres,
etc. Voilà. Bah ça, j'en ai jamais vu.
Il y a 4 numéros, dont le premier avec Johnny déjà. Et ensuite, donc, il est passé national. Et c'est ça qui a quand même mis la puce à l'oreille à Philippe Aki pour créer sa
Tout à fait. Tout à fait.
Après, Disco Revue, il a fait les Rockers. Il a fait d'autres tentatives.
Et puis, France Disque.
France Disque. Beaucoup de choses, mais ça, il n'a pas pu tenir le coup face à la concurrence. Ça l'a beaucoup déprimé, je pense.
C'est vrai. Et il est décédé en juillet 2005.
Oui, il s'occupait de... Il avait une boutique de disques à Nancy. Les dernières années, il était dans sa boutique. Ouais.
Puisque tu évoquais France Disques, c'est en 1962, un hebdomadaire, qu'il a 4 numéros seulement. Mm-hmm. Est-ce que tu en as un, là
Non. Ça, c'est rarissime.
Ça, c'est rarissime. Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'il y avait en couverture de ces quatre numéros?
Je pense qu'il y a dû y avoir Johnny, Cliff Richard, je crois.
Oui.
Je me souviens plus.
Je sais que Jacques Leblanc en a trois sur les quatre numéros. Donc, quand il viendra, quand il viendra évoquer ses souvenirs, j'espère qu'il nous apportera un ou deux numéros qu'on puisse les feuilleter ensemble. Buddy Holly, on peut dire que Jean-Claude Berton a
milité
pour le faire connaître en France.
Et faire sortir des albums, un album déjà, quoi.
Plusieurs fois en couverture.
Buddy Holly, Eddie Cochran, il a vraiment beaucoup milité. Gene Vincent aussi.
Gene Vincent, qui était quand même bien connu en France. Hein. Il a
pas vraiment, c'est grâce à Eddie Mitchell et les Chaussettes Noires, et oui. Appuyé par Discours Revue. Parce qu'avant, Bebop Leap et Chaussettes Noires, bon, Gene Vincent, c'était pas une star en France.
Oui, c'est vrai. Je vous propose qu'on écoute Buddy Holly. Est-ce que vous voulez Zal Bizodé ou Peggy Sue?
Zal Bizodé.
Allez, Zal Bizodé, 1957.
Love me, baby. Still, you tell me maybe that someday, well, I'll be through. Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave. You know it's a lie, 'cause that'll be the day when I die. You say you're gonna leave. You know it's a lie, 'cause that'll be the day when I die.
Ce qui m'interpelle là tout de suite, c'est que Discours Revue a contribué à faire connaître en France des gens qui étaient morts depuis au moins 3 ou 4 ans déjà. Mm-hmm. Et c'est, à mon sens, c'est sans précédent. Enfin, on n'imagine pas aujourd'hui qu'un magazine puisse tout d'un coup lancer la carrière de gens qui sont morts depuis longtemps. Parce que c'était quand même le cas de Buddy Holly, et le cas d'Eddie Cochran.
Il y a une fan attitude, c'est des militants rock'n'roll. C'est pour ça que c'est si attachant, je pense.
Mais cette notion de pionnier du rock est vraiment... Enfin, je pense que c'est un peu à lui que...
D'ailleurs, il faisait des ABCDR. Par exemple, il y a un article sur Elvis, d'époque, où il met la liste de toutes les chansons enregistrées par Elvis.
Ouais.
Il y a un côté encyclopédique et didactique qui est spécial, qu'on ne trouve pas ailleurs.
Le lien international des rockers.
Voilà.
Est-ce que vous pensez que Disco Revue était connu en Angleterre ou aux États-Unis par les artistes? Ben non, en plus, ils étaient morts.
Non, mais... je ne parle pas français.
C'était quoi le tirage? Est-ce que vous avez une idée?
C'est une colle, ça. Mm. Je ne sais pas du tout. Je pense que ça devait être assez impressionnant.
Ouais. Parce que mais... Salut les copains, on sait, on va en parler bientôt. Copains, on sait que ça a atteint un million. Mais Discours Revue...
Je pense qu'au plus fort, il y a dû y avoir quand même pas mal de tirages assez forts. Mais, ouais.
Mais est-ce que c'est des dizaines de milliers ou des centaines de milliers?
Et très peu de publicité quand même. C'était essentiellement des publicités de disques, de marques de disques.
Des cas.
Ah bah oui, on peut quand même dire un mot aussi des...
Il a enregistré deux 45 tours, Jean-Claude Berton.
C'est pas un chanteur né, je pense.
Non.
Mais il a été accompagné par les Rockers. Il est passé au golf et au bus aussi, je crois.
Ah bon, au bus Palladium. Qu'est-ce qu'il y avait comme...
Ou à la loco, plutôt.
À la locomotive. Mmh. Puisqu'on parle des clubs. À Lyon, est-ce qu'il y avait un club où des groupes passaient?
Il y avait un endroit qui s'appelle le Palais d'Hiver.
Le Palais d'Hiver.
Ah bon. Mais j'avoue que j'y ai jamais mis les pieds à l'époque. J'étais
trop mignon. J'étais
beaucoup trop jeune. Et voilà. Et c'est par contre beaucoup des années après, oui, effectivement, que je suis rentré dans cet endroit mythique où passaient toutes les vedettes du twist.
Parce que moi, c'est pareil. Au milieu, enfin début jusqu'au milieu des années 60, j'étais trop jeune pour aller au Golf Drouot ou à la locomotive. J'ai commencé à y aller le samedi après-midi pour le club des rockers, vers 66-67. Puis après, je pouvais y aller le soir, hein, le vendredi au tremplin, par exemple.
Mais le fait de lire sans pouvoir y aller, ça augmente le mythe.
Complètement. Ouais.
L'attraction.
Et puis dans ma chambre.
Et t'es pas déçu quand tu y vas pour la première fois? Non, finalement, c'est juste une salle, quoi.
Oui, bah, une salle très bas de plafond.
Non, en fait, on est, à l'heure actuelle, avec Internet ou autre, on est bombardé d'images. On voit tout ce qui se passe à l'autre bout du monde. Là, finalement, on lisait qu'il y avait des concerts au Goffredo, mais on n'en connaissait pas, ni pas beaucoup de photos.
Justement, tu te fais un cinéma.
Voilà, et puis on y va. Bon non, on est tellement content de sortir. De toute façon, les premières fois...
Tu montes l'escalier. Ouais.
Mon premier concert...
Voilà, ça, on n'avait pas ça. Il y avait ça dans Cinémonde, les photos de Cinémonde, c'était toujours les mêmes, prises de la même façon, où on voyait le groupe sur scène, où le chanteur manquait de se cogner la tête au plafond parce que c'est...
Moi, j'ai percé
qui était
le plafond,
très bas. Et c'est tout. Et on n'avait pas idée de la superficie de l'endroit. On ne voyait que cette scène. Mm-hmm. Très étroite, avec des gens, les musiciens, les uns sur les autres.
Mais le club était quand même assez grand. Hein. Vous trouvez que c'était un petit club, ou le Goffredo?
On n'en avait pas la moindre idée. Je veux dire, on ne voyait que cette photo de scène, toujours. Le Goffredo, pendant des années, pour moi, ça a été cette scène. Et le reste,
c'était quand même le principal intérêt.
On est bien
d'accord.
Il y avait la petite salle avec de la musique douce, tout au fond, à gauche.
Les
c'est vrai. C'est vrai, tu n'allais pas au Goffredo pour draguer.
Non.
Mais